Chapitre 2. C'était un train express, mais auquel on avait attaché à la jonction les wagons de deuxième et de troisième classe d'un train omnibus parti de Paris 3 heures avant lui. Aussi, quand les portières furent ouvertes, le quai se trouva-t-il envahi par une foule bigarrée. Aux plumes multicolores des parisiennes se mêlèrent les bonnets blancs des paysannes. Il y eut un brouhaha, et les plus pressés coururent aux barrières qui longeaient le quai et auprès desquelles se tenaient les entrepreneurs de voitures. Belloc aîné, son cousin, les autres.
« Belloc, une calèche !»«
Belloc, une Victoria !»«
Belloc, 6 places d'omnibus !»
Belloc est toujours Belloc. On accourait à lui, on le priait, tandis que les autres entrepreneurs s'empressaient d'offrir leurs services. Impassible, les deux bras appuyés sur la barrière, il écoutait tout le monde et ne disait rien. Aurait-on les places ou les voitures qu'on lui demandait? Ne les aurait-on pas? À cela seul qu'il honorait de sa protection pour une raison ou pour une autre, il répondait par une courte inclination de tête ou par un petit coup de chapeau, mais sans jamais se découvrir entièrement. Cependant, aussitôt que les portes s'ouvrirent, il vint se placer à la sortie à côté de son commis, un grand garçon blond d'une 20aine d'années, appelé Paulin Moreau, qui avait l'air aussi doux et aussi affable que son patron avait l'air arrogant et dur. Alors, comme il n'était plus protégé par la barrière, on l'entoura et les sollicitations recommencèrent.
« Une calèche! Une voiture, n'importe laquelle, celle que vous voudrez !»
À tous, il faisait la même réponse du bout des lèvres.
« Tout à l'heure, nous verrons, quand je me serai occupé des personnes qui m'ont retenu, des voitures ou des places. »
Pour celles qui avaient eu l'attention de lui envoyer des dépêches ou de le faire prévenir, il se montrait moins raide et c'était presque gracieusement qu'il prenait leur bulletin de bagages qu'il remettait aussitôt à son commis. Encore ne fallait-il pas qu'on insistât. Une jeune femme à l'élégance tapageuse, ayant voulu lui recommander ses 23 colis, il la regarda un moment sans rien dire, puis il répondit
« 23, c'est entendu !»
C'était vraiment chose curieuse que sa tranquillité et sa placidité, quand on les comparait à l'empressement ou à l'obséquiosité de tous les gens qui étaient là, autour de lui, à faire leurs offres de service aux arrivants. Pour chacun de ceux dont il daignait s'occuper, il avait un mot, mais un seul. « Madame la baronne, j'ai un landau pour vous, le 3e dans le rang. »« Monsieur le comte, votre chalet est terminé, les peintres ont fini il y a 8 jours. »« Mademoiselle Rosalie, vous direz à votre maîtresse que les 2 pièces de vin qu'elle m'a demandées sont dans sa cave. » Peu à peu, le groupe qui l'entourait s'était éclairci. Alors une jeune fille, qui se tenait à une certaine distance, fit quelques pas en avant pour se rapprocher de lui. Elle était en grand deuil, vêtue d'une robe de mérinos qui l'habillait trop court et trop serré, coiffée d'un chapeau de paille noire garni de crêpe anglais, chaussée de souliers cirés plus que fatiguée. De la main droite, elle portait un petit paquet noué dans un morceau de lustrine verte et de la gauche, elle tenait en laisse un petit chien de race bâtarde gris et noir. En donnant à la sortie son billet de 3e classe, elle avait demandé à un employé si M. Simon Belloc était à la gare. Mais au lieu d'aller à celui-ci, qui en ce moment était assailli de tous côtés, elle était restée à l'écart, attendant discrètement et gardant son chien de cour tout près d'elle. Bien que sa toilette et sa tenue n'eussent rien pour la faire remarquer, plus d'un homme cependant, en passant devant elle, s'était arrêté ou retourné pour la regarder. C'est que, malgré sa vieille robe étriquée et usée, elle était vraiment jolie. C'est que son pauvre petit chapeau de paille n'empêchait pas que ses cheveux blonds lui fissent un tour de tête frisé, vaporeux et folichon, qui contrastait avec la mélancolie de son visage et l'expression douloureuse de ses grands yeux noirs, et par là provoquait l'attention. Ceux-là qui n'étaient point sensibles à la beauté de ce visage pâle et à l'élégance de ce corsage souple et fin se demandaient qui était cette jeune fille de 15 ans que personne n'accompagnait. D'où venait-elle? Où allait-elle? Que voulait-elle? Son chien aussi provoquait la curiosité. Bien qu'il n'eût aucun genre de beauté de race ou de forme, ni rien de particulier en laideur ou en difformité,
Il y avait en lui quelque chose d'indépendant et en même temps d'intelligent qui amusait quand on l'avait une fois regardé. Que faisaient-ils là tous les deux, la maîtresse et le chien? Qu'attendait-il? Quand elle vit que Belloc n'allait plus avoir personne, elle vint à lui et aussitôt qu'il fut seul, elle s'approcha.
« J'arrive de Paris, » dit-elle timidement. « Je suis... »
Sans même la regarder, il lui coupa la parole.
« Je n'ai pas de place, » dit-il.
Toute troublée, elle s'arrêta. Cependant, presque aussitôt, elle reprit.
« Ne puis-je pas vous parler ? » demanda-t-elle.
« Je n'ai pas le temps. »
Et cette fois, lui tournant le dos, il s'éloigna à grands pas. Cependant, comme elle vit que le commis de Belloc la regardait d'une façon qui n'avait rien de décourageant, elle parut vouloir l'interroger. Mais elle n'en eut pas le temps.
« Paulin, au bagage !» dit Belloc en se retournant.
Et le commis, obéissant à cet appel, entra dans l'intérieur de la gare, tenant à la main les bulletins de bagages que son patron lui avait remis. C'était lui, en effet, qui devait les reconnaître et les faire charger dans un fourgon, qui suivait de près l'omnibus et les landaus, et ce jour-là, il avait force à faire. Si toutes les Parisiennes qui arrivaient n'avaient pas 23 colis, l'amas des malles, des paniers, des sacs, des caisses, des boîtes de toutes sortes formait cependant un entassement considérable. Il y avait promesse de toilette pour la plage de Saint-Maclou. Laissant à son commis le soin de ce chargement, Belloc surveillait le départ de ses cochers qui, ne prenant pas de bagages, n'avaient pas à attendre comme les autres. Il allait de voiture en voiture, adressant à chacun un mot de recommandation. Toujours à la place où il avait laissé, la jeune fille le suivait des yeux, attendant le moment où il reviendrait et où elle pourrait lui parler. Mais il ne revint point. Quand son omnibus ébranla à son tour, il employa lestement une courroie et, sautant sur le marchepied, il monta à côté du cocher. Enlevée par ses 5 chevaux, la lourde voiture disparut dans un tourbillon de poussière. Alors, sans hésitation, la jeune fille, tirant son chien derrière, sortit de la cour de la gare. Elle avait vu le chemin que l'omnibus venait de prendre, elle n'avait qu'à le suivre. Sur un poteau, elle lut « Saint-Maclou-la-Mer, 8 km. Criquefleur, 16 km. » Elle avait encore 3 heures de jour devant elle, c'était plus qu'il ne lui fallait pour faire 2 lieues. Elle détacha son chien, mais avant de le laisser aller, elle lui adressa des recommandations en lui passant doucement la main sur la tête à plusieurs reprises.
« Tu sais, Psyth, il faut me suivre de tout près. »
Et Psyth, après avoir fait 2 ou 3 gambades en aboyant joyeusement, revint près d'elle, montrant ainsi qu'il avait bien comprise. La route s'allongeait droit devant elle, courant entre 2 rangées d'arbres et bordée de maisons. Bientôt, ces maisons se firent plus rares et elle arriva en pleine campagne. Alors, quelques voitures parties de la gare après elle commencèrent à la dépasser, la noyant dans un flot de poussière. Puis, quand leur défilé eut cessé, elle se retrouva seule sur la route blanche. Elle marchait assez vite, d'un pas régulier, la tête baissée, en fille qui est sous le poids d'une préoccupation, ne la relevant de temps en temps que pour regarder si son chien la suivait ou pour changer son paquet de main. Au bout d'une heure à peu près, elle arriva au haut d'une côte et en face d'elle, elle aperçut la mer qui se découvrait à perte de vue jusqu'à l'horizon, toute rose sous les rayons du soleil couchant, avec çà et là des barques de pêche qui faisaient des taches noires. Devant elle, à ses pieds, s'étalait une grasse vallée qui allait finir à une suite de coteaux boisés et verts, au milieu desquels, entre des bouquets d'arbres, se détachaient d'élégantes maisons dont les claires façades avaient encore la brillante fraîcheur du neuf. En bordure sur la mer et au pied de ces coteaux se massaient autour d'un clocher en pierre grise les toits sombres d'un vieux village, Saint-Maclou-la-Mer. Il lui fallut une heure en suivant la route qui coupait à travers les herbages de cette vallée pour atteindre le village. Aux premières maisons, elle s'arrêta pour demander où demeurait M. Belloc. On lui répondit que c'était en face de la mairie et elle continua son chemin, se disant qu'elle trouverait bien la mairie. En effet, en arrivant sur une place, elle aperçut un grand bâtiment carré, tout neuf, dont l'architecture disait « c'est une mairie ». Mais ce qui l'embarrassa un peu, ce fut qu'en face de celui-là, elle en vit un second, carré aussi, tout neuf aussi, dont l'architecture disait non moins sûrement « c'est une mairie ». Une inscription peinte sur une porte vitrée de ce second bâtiment la tira d'embarras. Ayant lu « Bureau des voitures, entreprise Simon Belloc », elle entra dans ce bureau, tenant son chien en laisse. Le jeune commis qu'elle avait vu à la gare écrivait sur une table chargée de papiers et de plans d'architecte. « Est-ce que je puis parler à M. Belloc ? » demanda-t-elle. « M. Belloc dîne, mademoiselle, » répondit le commis poliment en la regardant. « Si vous vouliez bien lui dire que c'est Marichette... »